Pour la première fois depuis des mois, il fit un rêve en couleur, ses yeux bougeant rapidement sous ses paupières fermées. Monté sur un cheval sauvage, un énorme Appaloosa de la même couleur que le sable mouillé, il descendait la plage au galop. Quelqu'un s'était lancé à sa poursuite, mais l'allure irrégulière de sa monture l'empêchait de se retourner pour voir qui c'était. Il savait seulement qu'il devait fuir, qu'à s'arrêter, il périrait. Les sabots de l'animal projetaient du sable mouillé en l'air. Le galop du cheval cédant peu à peu la place au bruit des battements de son cœur, Maccaleb se réveilla et tenta de se calmer. Au bout de quelques instants, il décida de prendre sa température. Tandis qu'il s'asseyait au bord du lit et posa les pieds sur le tapis, son regard se porta sur la table de nuit. Il avait l'habitude de chercher son réveil des yeux lorsqu'il se réveillait, mais il n'y avait pas de réveil sur la table. Maccaleb se détourna, puis reporta aussitôt son attention sur la table. Son pistolet avait disparu. Il se leva d'un bond et chercha tout autour de la chambre, tandis qu'une étrange impression de dislocation le gagnait. Il était sûr d'avoir posé son arme sur le meuble avant de s'endormir. Quelqu'un s'était introduit dans la pièce pendant son sommeil. Crimmins, ça ne faisait aucun doute. Crimmins était entré dans sa chambre. Il fouilla vite les poches de son ciré, puis son sac, et s'aperçut que rien n'y manquait. Il scruta encore une fois la chambre et découvrit une canne à pêche dans un coin, près de la porte. Il s'approcha et s'en empara. Elle était du même modèle que celle qu'il avait achetée à Raymond. Il la tourna et retourna dans ses mains et y découvrit les initiales RT, gravées dans la protection en liège du bas de la canne. Raymond avait ainsi marqué que l'objet lui appartenait, ou alors quelqu'un qui l'aurait fait à sa place. Peu importait, le message était clair, Crimmins tenait Raymond. Tous les sens en alerte, Maccaleb sentit sa poitrine se serrer sous les douleurs de l'angoisse. Les poings fermés, il enfila sa veste de ciré et gagna la porte qu'il examina un instant. Rien n'indiquait que la serrure en aurait été trafiquée. Il se rendit tout de suite à la réception, la cloche sonnant fort lorsqu'il ouvrit violemment la porte. L'homme qui avait pris son argent se leva de sa chaise derrière le comptoir et lui décocha un sourire gêné. Il s'apprêtait à lui dire quelque chose lorsque, sans hésiter, Maccaleb s'approcha du comptoir, tendit la main par-dessus, attrapa le type par le devant de sa chemise et le secoua jusqu'au moment où le bonhomme se retrouva couché sur le comptoir, le coin du meuble en formica lui rentrant dans la bedaine.
« Où est-il ? »
hurla-t-il dans la figure de l'employé.
« Qui ? L'homme ? Celui à qui vous avez donné la clé de ma chambre, où est-il ? » ?»«
No hablo. »
Maccaleb tira encore plus fort sur le devant de sa chemise et lui coinça la nuque sous l'avant-bras. Il sentait ses forces le lâcher, mais appuya encore plus.
« Mon cul, que tu ne parles pas anglais, où est-il ? »
L'homme suffoqua et se mit à gémir.
« Je ne sais pas, dit-il, je ne sais pas où il est. » « Était-il seul quand il est venu ici ?»«
Seul, oui. »
« Où habite-t-il ? » ?
« Je ne sais pas, s'il vous plaît. Il dit qu'il est votre frère et a une surprise pour vous. Je lui donne la clé pour qu'il vous fait la surprise. »
Maccaleb le lâcha et le poussa si brutalement contre le comptoir que le réceptionniste retomba direct sur sa chaise. L'homme levant alors les mains en l'air en un geste de supplication, Maccaleb comprit à quel point il devait lui faire peur.
« S'il vous plaît, » répéta l'employé.
« S'il vous plaît quoi ?
S'il vous plaît, je veux pas des ennuis. »
« Trop tard, comment a-t-il su que j'étais ici ? » ?»«
Je l'appelle, il me paye. Il vient ici hier et dit que vous venez peut-être. Il me donne numéro de téléphone, il me paye. »
« Et comment avez-vous su que c'était moi ? » ?»«
Il me donne une photo. »
« Bien, donnez-la-moi, la photo et le numéro de téléphone. »
Sans hésiter, l'homme tendit la main vers un tiroir devant lui. Maccaleb se pencha tout de suite en avant, lui attrapa le poignet et d'une bourrade l'éloigna du tiroir. Puis il ouvrit ce dernier, son regard se portant aussitôt sur une photo posée sur un tas de papiers divers. Il s'y découvrit en train de se promener avec Graziella et Raymond sur la jetée du port de Plaisance. Il sentit son visage s'empourprer tandis que sa mâchoire se durcissait sous la colère. Il tint la photo en l'air puis la retourna. Un numéro de téléphone était inscrit au dos.
« S'il vous plaît, » répéta l'homme en tendant la main vers la poche de sa chemise, « vous prenez l'argent, $100 américains, je veux pas ennui pour vous. »«
Non, » lui renvoya Maccaleb, « vous le gardez, vous l'avez gagné. »
Puis il rouvrit la porte avec tant de violence que la corde qui retenait la cloche se brisant d'un coup, celle-ci dégringola dans le coin du bureau. Il traversa le parking couvert de gravier et gagna la cabine publique de la station-service. Il composa le numéro inscrit au dos de la photo et entendit une série de déclics, tandis que son appel était réacheminé par au moins deux services de transfert. Il s'en voulut d'avoir été aussi bête. Jamais il n'arrivera à remonter le coup de fil jusqu'à une adresse, même s'il réussissait à convaincre une autorité locale de le faire à sa place. L'appel étant enfin pris par le dernier relais de transfert, il entendit une sonnerie. Il retint son souffle et attendit, mais répondeur ou être humain, personne ne décrocha. Au bout de 12 sonneries, il raccrocha toute volée, l'écouteur retombant au bout du fil et se mettant à balancer à droite et à gauche sous l'appareil. Le bourdonnement de la ligne lui résonna encore dans les oreilles. McCaleb resta figé sur place, tant le saisissait la colère et la conscience de son impuissance. Au bout d'un long moment, il s'aperçut qu'il regardait le parking de l'hôtel à travers la vitre de la cabine. Sa Cherokee s'y trouvait encore, mais une autre voiture, une Caprice blanche immatriculée en Californie et couverte de poussière, s'était garée à côté d'elle. Il quitta vite la cabine, traversa le parking et gagna le raidillon qui descendait à la plage. La roche à travers laquelle taillait le chemin l'empêchant de voir le rivage, ce ne fut qu'au moment où il arriva au pied de la falaise qu'il le découvrit et tourna aussitôt à gauche. Personne. Il fonça jusqu'au bord de l'eau et regarda des deux côtés, mais non, rien, la plage était déserte, jusqu'aux chevaux qu'on avait rentrés pour la journée. Son regard étant attiré par l'espèce de grotte ombreuse sous le surplomb, il s'y rendit.